autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour partager le parcours hors du commun, scientifique, humaniste et altruiste du professeur Philippe Kourilski, immunologiste internationalement reconnu, membre de l'Académie des sciences, celui qui fut le directeur de l'Institut Pasteur pendant l'âge d'or de la biologie moderne, qui a accompagné les formidables découvertes autour de l'ARN messager avant d'être nommé professeur au Collège de France, où il initia la chaire Savoir contre pauvreté, tout en publiant des ouvrages de référence, Le jeu du hasard et de la complexité ou le très beau Temps de l'altruisme. Philippe Kourilski partage avec nous dans son nouvel ouvrage Mes années pasteur aux éditions Odile Jacob un peu de ce souffle pasteurien qui l'anime. Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta religion, mais quelle est ta souffrance, disait Pasteur, cité par Philippe Kourilski. Comment poursuivre dans cette voie ? Pourquoi s'engager au nord comme au sud pour une vraie réciprocité, une santé globale réellement partagée par tous les humains sur la planète ? Autant d'enjeux à relever ensemble, en célébrant aussi les 40 ans de l'identification du virus du sida par les équipes de l'Institut Pasteur, c'était le 20 mai 1983, et la lutte, comme la recherche continue et avance, à Paris comme à Bangui, Shanghai ou Phnom Penh, autour de la question « Pourquoi faut-il absolument partager sa science en général et l'immunologie en particulier ?» Bienvenue. Bonjour Philippe Kourilski.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Cette fois-ci, c'est donc autour de vos années pasteur, titre de votre dernier ouvrage, dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Alors, histoire de se mettre tout de suite, comment dire, dans la réciprocité, dans le partage, dans cette éthique pasteurienne, dans ce temps de l'altruisme que vous appelez de vos voeux, Philippe Kourilski, je propose de commencer par une première question. À la fois philosophique et biologique, adressé au professeur d'immunologie que vous êtes, par le philosophe Olivier Abel. Il était de retour de Kinshasa en RDC pour un colloque panafricain et international autour de la pensée de Paul Ricoeur, partagé et discuté avec et par des philosophes et des historiens de tout le continent. Olivier Abel nous a laissé une question pour vous, Philippe, on l'écoute.
Pour moi, il y a une question d'immunologie en quelque sorte, mais c'est peut-être d'immunologie métaphorique, hein, mais c'est une question de philosophe. Mais pour qu'il y ait de l'autre, il faut aussi qu'il y ait du soi. Il faut donc qu'il y ait un minimum d'immunité en quelque sorte, d'immunisation. Il faut exister. Ricoeur, elle a cette formule extraordinaire. Il dit pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Qu'est-ce que ça vous dit à vous, immunologiste, cette formule ?
Qu'est-ce que ça vous dit, Philippe Kourilski ?
Ben, ça me dit la vérité.
Ah.
Voilà, c'est-à-dire, et c'est une vérité qui vaut en immunologie comme en philosophie, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'en immunologie, la discrimination entre ce qu'on appelle le soi et le non-soi, c'est-à-dire la reconnaissance de l'étranger contre lequel le système immunitaire se mobilise, cette reconnaissance est acquise par la connaissance du soi. Donc on apprend le soi avant d'apprendre ce qui est étranger. On apprend ce qui est étranger parce que le système immunitaire a appris ce qu'est l'organisme lui-même et toutes ses singularités. Et c'est grâce à cela qu'il sait distinguer les singularités de ce qui apparaît de l'extérieur, un virus, Dieu sait quoi, et qui apparaît donc comme étranger, donc potentiellement dangereux. Alors le lien avec la philosophie s'arrête là, parce que si on dit que tout ce qui est étranger est potentiellement dangereux, ça ne va pas aller du tout. Mais cet apprentissage du soi est complètement essentiel pour la construction de l'être.
De l'être, pour l'immunologie, donc cette science à laquelle vous avez consacré votre vie de chercheur. Pourquoi et comment on le découvre hein, dans cet ouvrage « Mes années pasteur » parce que vous avez vécu vraiment, Philippe Kourilski, l'âge d'or de la biologie moderne, l'âge d'or de l'immunologie.
À vrai dire, c'est un deuxième âge d'or, parce qu'à l'Institut Pasteur, le premier âge d'or est indubitablement celui des très très grandes découvertes par François Gros, François Jacob, Jacques Monod, André Lvoff et d'autres. cette époque-là a donné naissance à ce qu'on appelle la biologie moléculaire dans ses principes. Mais ensuite, il y a une deuxième phase qui est plus disséminée probablement, mais qui a été brillante à Pasteur également. C'était la construction de ce qu'on appelle la génétique moléculaire, c'est-à-dire la manière d'aborder des problèmes de génétique et de biologie par l'isolement des gènes. Ce qui a été un progrès absolument phénoménal dont on voit les retombées médicales aujourd'hui. On l'a vu avec l'ARN messager.
Oui, l'ARN messager découvert par François Gros à l'Institut Pasteur et François Jacob.
Et on le voit aujourd'hui dans tous les secteurs de la médecine où la génétique moléculaire a produit des applications tout à fait innombrables. Plus de la moitié des médicaments anticancéreux aujourd'hui sont issus d'une manière ou d'une autre de la génétique moléculaire.
Et la particularité de l'immunologie en biologie moléculaire, quelle est la particularité de l'immunologie et pourquoi cette science est quand même en plein essor aujourd'hui grâce justement à toutes ces découvertes?
Elle est en plein essor parce que dans l'évolution de la biologie, vous pourrez constater qu'il y a eu une phase un peu réductionniste où chacun était dans son coin, on avait isolé son gène, on travaillait sur son gène, sa protéine, son truc, etc., etc. Et par rapport à ça, cette approche est absolument fondamentale, mais elle doit être dépassée lorsqu'on s'adresse à un système. Donc si on s'adresse au système immunitaire, il faut beaucoup plus que ça. Si on s'adresse au système nerveux, il faut beaucoup plus que ça. Et donc les grands développements de la biologie aujourd'hui sont des développements très largement systémiques.
Et qui dit système dit complexité. Vous aviez publié un ouvrage, Le jeu du hasard et de la complexité. La complexité en science, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut raisonner en système.
Absolument. Et la complexité en science nous renvoie une fois de plus, et le parallèle est joli, avec la complexité des philosophes. Mmh. Évidemment, on évoque Edgar Morin et d'autres, mais la complexité en science a maintenant un sens extrêmement précis et des traitements qui sont extrêmement précis et qui rentrent d'ailleurs dans la mathématisation et l'algorithmisation des données. Donc c'est effectivement un jeu de concepts qui est extrêmement important. Historiquement, il est né plutôt de l'ingénierie, simplement parce que l'homme s'est mis à construire des bidules de plus en plus compliquées, qui sont devenues complexes. La différence entre compliqué et complexe, on pourrait en parler. Et donc, un avion, aujourd'hui, c'était épouvantablement complexe, si vous voulez. Et donc, les ingénieurs, ou un ordinateur, bien entendu, donc les algorithmes, tout ça est extrêmement complexe. Et donc, un courant de réflexion, d'organisation de la pensée, d'instruments, de science, né autour de ça, se retrouve un peu déporté vers les sciences du vivant aujourd'hui, notamment la biologie et notamment dans le système immunitaire, évidemment, et bien sûr à venir et en cours dans le système nerveux.
Alors parmi tous les chercheurs avec qui vous avez travaillé, tous les découvreurs qu'on a cités, hein, que ce soit les prix Nobel François Jacob ou Jacques Monod, il y en a un qui vous a marqué plus que les autres et qui est donc l'un des découvreurs, le co-découvreur de l'ARN messager et à qui vous avez rendu hommage au Collège de France tout récemment. C'est François Gros qui nous a quittés le 18 février 2022, donc co-découvreur de l'ADN messager, ce scientifique généreux, humaniste, ouvert, était votre ami, vous l'avez côtoyé jusqu'à la fin. Je vous propose de l'écouter, parce que je sais que c'est un de vos souhaits, Philippe Ourilski, dans cet extrait d'une conférence que François Gros a donnée le 31 mars 2015 à Sorbonne Paris Nord sur la bioéthique, sujet qui vous tient à vous aussi particulièrement à cœur.
On peut prédire aujourd'hui, d'une part, on peut étudier avec beaucoup plus précision la biodiversité grâce à la métagénomique. On peut diagnostiquer un très grand nombre de maladies. La question qui va se poser, est-ce qu'il faut tout prévoir, tout diagnostiquer, ce qui est le problème que Malraux avait appelé l'état de l'antidestin. Est-ce que l'homme doit justement s'acheminer vers cette forme de prévisibilité totale? On pourra traiter de mieux en mieux, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à modifier l'espèce humaine elle-même? C'est pas tout à fait, disons, inimaginable, mais est-ce qu'il faut faire ce genre de choses? Donc tout ceci, bien sûr, soulève des problèmes de bioéthique, les questions, les risques d'eugénisme, qui sont d'autant plus grands qu'on a maintenant la possibilité d'établir des cartes génomiques assez fidèles, nécessité de la confidentialité, surtout si nous nous baladons avec ces cartes dans notre poche. Troisièmement, et ce ne sont pas les seuls facteurs, bien sûr, les facteurs sociétaux, qui sont à mes yeux les plus importants, qui bénéficiera justement de tous ces progrès, donc médecine à deux vitesses.
François Gros pose là, en 2015, toutes les questions qui nous occupent ou qui devraient nous occuper aujourd'hui, Philippe Kourelski.
Oui, absolument. J'ai fait ma thèse avec François Gros, donc il était plus qu'un ami, quelque part un modèle, si vous voulez.
Oui, un professeur.
Et il est un... Enfin, je vous fais remarquer qu'il avait, je pense, 90 ans lorsqu'il a prononcé cette conférence, avec toujours cet esprit de justesse, de justice et de prospective qu'il caractérisait.
Oui, il dit d'ailleurs, la justice sociale, au fond, c'est ce qui lui importe le plus.
Et la justice sociale lui importe le plus. Et tous les problèmes qu'il pose sont absolument réels. Et donc le problème, c'est que les innovations, et ça se précipite aujourd'hui, c'est vrai que les capacités d'intervention sont multipliées par 10, puis par 100, puis par... etc. Donc la question va se poser de la régulation, si vous voulez. Ceci étant, je voudrais juste nuancer un tout petit peu le propos de mon ami François Gros.
Oui.
Il faut garder une part de hasard.
Ah.
Et le hasard est partout, et donc le hasard, quelque part, nous investit également.
Fait bien les choses, ou va peut-être...
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui de vision totalement déterministe sans incorporer une dose de hasard.
Ah oui, ça c'est le scientifique qui parle et qui dit qu'il y a toujours du hasard, quoi qu'on fasse finalement.
Ah ben, regardez, en biologie, le fondement du hasard, quelque part, ce sont les mutations dans l'ADN. Et ce qui rend toutes sortes de choses imprévisibles, comme l'émergence des cancers, qui sont en fait l'accumulation d'un certain nombre de mutations. Donc, on peut travailler à mieux prévoir, on ne prévoira jamais tout. En revanche, on peut essayer de corriger au maximum, et donc, il faut, comment dire, prendre le hasard pour ce qu'il est et comme instrument. Et dans le système immunitaire, d'ailleurs, on voit très bien comment, et c'était le thème du livre que vous avez cité, Le jeu du hasard et de la complexité, on voit vraiment comment le système immunitaire exploite le hasard pour contrôler le hasard. Donc c'est une dialectique très intéressante.
Complexe, là encore, complexe. J'imagine. Et je veux bien revenir aussi sur ce qui vous unit aussi à François Gros. C'est cette, cette volonté d'égalité, d'équité, de justice qui vous importe, j'ai envie de dire, presque plus que tout. Enfin, c'est vraiment ce pourquoi vous avez écrit un ouvrage, Le temps de l'altruisme, un manifeste pour l'altruisme. On n'a pas le choix aujourd'hui, peut-être d'autant plus quand on est immunologiste et qu'on sait qu'à l'intérieur de nous vivent aussi beaucoup d'autres populations, même non humaines, qui nous font vivre. Mais est-ce que ça va avec, parce que d'autres immunologistes sont moins portés sur ces questions d'équité, de justice?
Oui, on quitte un peu les questions de science,
si vous voulez. C'est vrai.
Néanmoins, il y a un fondement scientifique qui est absolument important. C'est justement non pas l'égalité, c'est l'inégalité. Nous sommes inégaux devant les maladies et devant toutes sortes de choses. Nous sommes génétiquement inégaux. Et donc le problème qui se pose est celui de l'équité, beaucoup plus que celui de l'égalité. L'équité est nécessaire justement vis-à-vis de ces inégalités. Et les inégalités génétiques notamment nous sont révélées et il y en a de plus en plus. On sait qu'il y a ce qu'on appelait des tares dans le temps, mais enfin des déficits génétiques dans une bonne partie de la population. On sait qu'on commence à trouver des bases génétiques à l'autisme, on commence, etc. etc. Et donc cette inégalité, de fait, doit être acceptée. Et c'est une affaire d'équité et de justice.
Et donc doit être réparé, travaillé. On a les moyens de contrebalancer cette inégalité de fait. C'est ça que vous dites?
Quand on a les moyens, tant mieux. Et sinon, il faut l'accepter socialement. Et donc, je prends le cas des autistes, on n'a pas l'impression qu'ils soient tellement, tellement bien traités dans notre pays. On ne les voit pas beaucoup. Ils ne sont pas socialement incorporés comme des êtres normaux à la société.
L'équité, hein, l'équité ici comme ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui vous occupe, qui rejoint d'ailleurs un concept qu'on entend beaucoup aujourd'hui, le concept de santé globale, One Health, sur lequel vous interroge précisément Fatou Bintoussar. Elle est professeure de physiologie à l'université Ibad Ertiam de Tess, porteuse pour le Sénégal d'un projet qui implique plusieurs universités dans le monde autour des nouvelles compréhensions du monde. Fatou Bintoussar était récemment notre invitée. Écoutez, sa question, elle est pour vous.
On est carrément dans le concept qu'on appelle maintenant une seule santé, c'est la One Health. Hein. On se rend compte que finalement, il y a un croisement entre tout ça. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas quelle est sa position par rapport au concept d'une seule santé, de One Health. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider, notamment dans une meilleure appréhension de l'immunologie chez l'être humain?
Qu'en pensez-vous, Philippe Ourelski?
J'hésite à appeler le One Health un concept. Pour moi, c'est un mouvement de la science qui, encore une fois, dépasse le réductionnisme pour prendre en compte les phénomènes plus globaux, plus complexes. Maintenant, si on s'attaque à un phénomène global sans en prendre en compte la complexité, on va dans le mur.
Et donc,
je pense que le mouvement doit s'accompagner, si vous voulez, d'un approfondissement de la science dans les différents secteurs couverts par le terme. Alors, Global Health, ça veut bien dire plusieurs choses en réalité. La première, c'est que la santé globale, je vous renvoie à la définition de l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être finalement, et donc ça fait très large, hein. Ça va très très loin. Bon. Je vous renvoie également évidemment aux dispositions géographiques et au fait que, bien entendu, les maladies infectieuses n'ont pas de frontières. Ça, on le sait bien, même si on l'oublie de temps en temps. D'ailleurs, de temps en temps, il faut les fermer parce que, justement, comme il n'y a pas de frontières, ça circule. Donc, on a vu ça il n'y a pas tellement longtemps. Donc, si vous voulez, ce complexe de Global Health, ça veut dire beaucoup plus de travail pour travailler correctement.
Au fond, ça ne se décrète pas, c'est ça que vous dites aussi, ça ne se décrète pas. Global Health, c'était un chemin pour prendre en compte justement le tout et aussi au sud des inégalités.
Exact. Et si on veut prendre en compte le tout, il faut se grouper. Aucune personne n'est capable de prendre en compte le tout. Donc, il faut trouver une sorte de convention, si vous voulez, entre individus qui veulent travailler ensemble pour résoudre un problème. Et l'évolution de la science va effectivement dans cette direction, à peu près dans tous les domaines. Les grandes percées ou deux grandes percées sur le fonctionnement du cerveau, pour prendre cet exemple, sont liés parfois à des individus, mais de plus en plus souvent à des groupes et des consortiums de plus en plus gros d'individus qui mettent leurs compétences ensemble pour résoudre le problème. Donc, Global Health, pour moi, c'est du même ordre. C'est une invitation, une incitation, un impératif à travailler ensemble et à mettre en commun les connaissances beaucoup plus qu'on ne le fait bien souvent, y compris avec le Sud.
C'est ça, y compris avec le Sud. Alors je rappelle, on y reviendra, que vous avez initié plus tard, hein, dans votre carrière au Collège de France, la chaire Savoir contre pauvreté. Donc il y a vraiment là aussi l'idée de travailler ensemble contre les inégalités, pour le coup, géographiques et économiques.
Oui. Vous savez, le mérite en revient au Collège de France. J'ai eu cette idée et j'ai eu la joie de l'avoir acceptée par mes collègues, unanimement. Voilà. Donc,
Je vous reconnais bien là, Philippe Ourelski, autour de la question « Pourquoi faut-il partager sa science ?» Et avant de découvrir comment, dans « Mes années Pasteur », hein, votre ouvrage, dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, mais aussi en célébrant le 40e anniversaire de l'identification par les équipes de l'Institut Pasteur du virus du VIH, du SIDA, comment la recherche en immunologie, en infectiologie, en virologie se poursuit dans le monde entier à travers le réseau international des Instituts Pasteur. Je vous propose de nous arrêter d'abord quelques instants sur une musique, avec une musique qui nous fait du bien. Le pianiste amateur que vous êtes, Philippe Ourelski, a choisi Debussy. Je vous propose un extrait de l'album Images, intitulé « Les reflets dans l'eau ». Debussy, sur RFI.
Thank you.
Le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli interprète Debussy sur RFI. Merci pour ce choix musical apaisant. Ça fait du bien par où ça passe, Philippe Gourelski. Autour de la question, pourquoi faut-il partager sa science ? L'immunologiste, humaniste, altruiste que vous êtes vient de publier « Mes années Pasteur, l'âge d'or de la biologie moderne » aux éditions Adil Jacob. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, en ce joli mois de mai, qui marque aussi les 40 ans de l'identification du virus du sida à Pasteur par les équipes de Françoise Barré-Sinoussi. Avec la publication, c'était le 20 mai 1983, dans la prestigieuse revue Science, de la première description du virus du sida. Depuis 40 ans, les biologistes, immunologistes, virologistes examinent sans relâche les caractéristiques du VIH et tentent de nouvelles pistes de traitement, voire même de guérison. 40 ans de traque du VIH, partagé dans le reportage qui va suivre in situ à l'Institut Pasteur, réalisé par Charlie Dupiau, qui nous fera entendre Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité, et Michaela Müller-Trudwin, responsable, elle, de l'unité HIV, inflammation et persistance à l'Institut Pasteur de Paris.
Le rôle de l'Institut Pasteur est bien connu maintenant, puisque c'est ici qu'a été isolé le virus pour la première fois. Les premières images en microscopie électronique ont été faites ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà à cette époque, bon, moi, je ne travaillais pas encore ici, ce succès d'isolement d'un virus et de sa caractérisation vient d'une rencontre fructueuse entre des équipes de chercheurs et de médecins qui a mené à cette découverte.
L'isolement du virus a été réalisé ici.
Alors, l'isolement du virus a été fait par l'équipe de Françoise Barré-Sinoussi et la recherche ne s'est pas arrêtée là, puisque ensuite la séquence du virus a été faite ici, publiée en 1985. Le virus VIH2 a été également découvert à l'Institut Pasteur, donc c'est un cousin du VIH1 qui est moins pathogène mais qui s'est quand même répandu de façon pandémique dans le monde. Et les recherches continuent pour étudier les interactions entre le virus et les cellules qui l'infectent, la formation du réservoir, quelque chose qui est formé dès les premières semaines de l'infection et qu'il est très difficile à déloger de notre organisme.
On met une blouse pour entrer.
Le mettre au-dessus, hein, si vous voulez. Alors là, c'est pas dangereux. Hein. La blouse que vous mettez, c'est pour protéger nos cellules. Parce que c'est vous qui allez amener les microbes dans la pièce. Vous pouvez amener des bactéries qui pourraient contaminer nos cellules. Donc là, on est rentré dans le laboratoire.
Michaela Müller-Trudwin, vous êtes responsable de l'unité VIH, inflammation et persistance. En quoi c'est important pour vous de travailler dans cet endroit, dans cet institut ?
Ben, c'est très important parce qu'en fait, il y a une très bonne connaissance en virologie. Et en fait, moi, ça fait longtemps que je travaille sur le VIH. Donc, c'était un des rares laboratoires qui avait les plus grandes connaissances sur ce virus, qui est un virus extrêmement complexe, très difficile, avec beaucoup de mécanismes où il échappe aux réponses immunes. J'étais vraiment dans le cœur, en fait, dans l'endroit où peut-être on savait le plus sur le VIH. En tout cas, c'est ce que j'imaginais. Et effectivement, j'ai beaucoup appris à travailler ici. Je suis allée travailler à l'Institut Pasteur à Bangui, en Centrafrique. En fait, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est un endroit qui est très proche de l'origine, en fait, de l'épidémie du VIH. Et les variants viraux qui circulaient ou qui circulent encore aujourd'hui dans ces zones géographiques ne sont pas les mêmes que les variants viraux en Europe ou aux États-Unis, qui, eux, étaient mieux caractérisés, mais on savait très peu sur les variants viraux en Centrafrique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé en fait, à identifier les variants viraux qui circulent ou qui se transmettent mieux dans ces zones géographiques moins étudiées. Une infection virale se propage aujourd'hui encore plus vite dans le monde. En fait, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et c'est très important, mais je suis contente de voir que les équipes de virologie sur place qui travaillent beaucoup aussi. Au Centre Pasteur du Cameroun, par exemple, ils ont une cohorte pédiatrique, donc des enfants qui ont été infectés par leur mère, qu'ils étudient. Il y a des pays qui sont défavorisés par rapport à d'autres. Et moi, j'ai envie de participer à aider à ce qu'on vive dans un monde plus équitable. par exemple, tout ce qui était appris ou mis en place sur le VIH il y a 20 ans, aujourd'hui, en fait, c'est les structures qui existent, les technologies qui existent sur place et qui permettent, par exemple, de mieux contrôler quand il y a une nouvelle infection. Ce qui a été mis en place au Sénégal, par exemple, a aidé pour vite contrôler l'épidémie d'Ebola, par exemple. Mais par exemple, ils avaient déjà en place la technologie des PCR. Et en fait, l'Institut Pasteur à Dakar a en fait formé les chercheurs des autres pays voisinants à faire les tests de PCR ou des tests de diagnostic.
Pour Ebola ?
Pour Ebola, dans ce cas-là, oui. Et en fait, c'est ça qui est joli aussi, c'est qu'en fait, on travaille sur un virus donné, mais on peut, avec ça, aussi contribuer à la recherche d'une manière générale.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Nachowski.
Philippe Kourilski, vous voulez ajouter quelque chose que vous inspire tous ces propos recueillis donc par notre reporter Charlie Dupiot à l'Institut Pasteur à Paris. On a entendu Olivier Schwartz et Michaela Müller-Trudwin, responsable de l'unité VIH, inflammation et persistance.
Écoutez, ça illustre bien plusieurs aspects de l'institution pasteurienne et de son esprit. L'institution pasteurienne, elle est caractérisée par ces deux dimensions de recherche extrêmement profondes et aussi profondes et brillantes que possible, dont la découverte du virus du VIH est un bel exemple, si vous voulez. Et de l'autre côté, le pendant de cela, c'est l'exploitation, l'utilisation de cette recherche et du savoir dans un esprit et des procédures de santé publique.
C'est ça.
Et de santé publique mondiale.
Voilà.
Louis Pasteur a lui-même déclenché une diaspora pour de pasteuriens, si je peux dire, pour qu'ils aillent à la fois enseigner ce qu'il appelait la méthode, c'est-à-dire la vaccination contre la rage, mais également récolter de nouvelles maladies, puisque les maladies, il fallait bien de nouveaux agents infectieux, pardon, il fallait bien aller sur place, en bateau à l'époque et pas en avion, pour aller voir ce qu'était la peste, ce qu'était ceci, ce qu'était cela. Bon. Et donc la trajectoire de tout cela est celle qui est encore conservée aujourd'hui dans l'Institut Pasteur, bien entendu. Mais tout ce qui vient d'être dit illustre pour moi l'importance du réseau international des Instituts Pasteur. Et ces instituts sont largement, pour beaucoup, sont des instituts nationaux. L'Institut Pasteur de Paris ou à Paris est une sorte de grand frère, si vous voulez. Mais ces instituts jouent un rôle très important et le réseau que constitue cet ensemble d'instituts est un acteur de la santé globale. Il ne représente pas toute la santé globale, bien entendu, mais c'est un acteur de la santé globale, un partenaire significatif de l'Organisation mondiale de la santé. Et je tiens à dire que les compétences qui se développent dans ces instituts sont absolument précieuses et irremplaçables. Ce n'est pas toujours de la très, très immense science, comme on espère faire dans certains laboratoires parisiens, mais c'est le versant santé publique et d'un niveau de qualité et de dévouement absolument extraordinaire, et parfois effectué, comme dans certains de ces instituts, dans des conditions même dangereuses pour les personnels.
C'est ça, très difficile dans certains pays, c'est clair.
C'est un réseau tout à fait remarquable.
Que vous ont appris vos années Pasteur ? Compliqué de le dire comme ça, Philippe Kourilski, vous y avez travaillé en tant que chercheur, vous avez dirigé l'Institut Pasteur. Que vous ont appris ces années Pasteur ? Est-ce que c'est possible de le partager ?
J'essaie de l'exprimer sous forme de la trajectoire. Alors évidemment, l'Institut Pasteur doit à la fois, comme je viens de le dire, mener des recherches de très haut niveau et dans un esprit de santé publique. Et donc, il faut arriver à concilier ces deux grandes directions, si vous voulez, ce qui demande des moyens qui évoluent sans arrêt, puisque tout évolue, y compris la santé publique, y compris l'état du monde, y compris les agents infectieux, y compris, etc.
C'est ça, et qu'en plus, les maladies infectieuses, les agents infectieux émergents ne cessent d'émerger, justement.
Ne cessent d'émerger. Et c'est même un peu, je veux dire, on connaît à peu près le taux. Il émerge un agent infectieux potentiellement dangereux à peu près, enfin plusieurs fois par an. Hein.
Donc, dans le monde.
Oui, alors quelque part ça fuse, rarement heureusement, et la plupart du temps ça se contraint. Ouais. En tout cas, l'évolution pour moi, c'est l'évolution, comme je l'ai dit, vers une professionnalisation dans ces deux bras armée de l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, ça passe par notamment un accroissement qui a été construit par mes prédécesseurs, notamment du digital. Les moyens informatiques sont maintenant importants et de plus en plus. Et le style de science a changé et le style de santé publique a changé. Et l'Institut Pasteur accompagne tout cela dans le même esprit pasteurien du fondateur.
Oui, vous parlez du souffle pasteurien. Et le souffle pasteurien, oui, oui, oui. De la vaccination notamment. Il y a aussi quelque chose, alors on s'éloigne un petit peu de Pasteur, mais quoique, que vous défendez, on a parlé d'altruisme, mais vous défendez une altrui-mondialisation. Je trouve que le mot est très joli et c'est aussi en lien avec ce que font les instituts Pasteur, finalement, quand même. C'est un peu une manière de faire de la science, de la recherche et de la santé publique altruiste et altrui-mondialiste.
Oui, et ça peut s'exercer dans deux grandes directions qui sont exemplaires. Les maladies infectieuses sont l'une d'elles, mais il y en a une autre qui nous tient tous à cœur, j'imagine, c'est l'environnement.
Mais oui.
Comment voulez-vous résoudre les problèmes du réchauffement climatique et de la pollution en général en les résolvant localement, uniquement dans les pays riches? Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, cette altrui-mondialisation, c'est bien la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'œuvrer ensemble pour résoudre ces problèmes. Or, on est très très loin du compte. Très très loin du compte. Et de ce point de vue-là, la générosité, entre guillemets, dont les pays riches font preuve par rapport aux pays en développement, est assez critiquable. Donc,
vous la critiquez d'ailleurs,
oui,
à vous.
Oui, je la critique, voilà. Oui, bien sûr. Oui.
Et on peut souligner que Le temps de l'altruisme avait été préfacé. Cet ouvrage, vous avez même été, un peu soufflé par... l'idée vous en a été donnée par Amartya Sen.
Oui.
Vous êtes aussi assez proche de la prix Nobel d'économie Esther Duflo. Enfin, voilà, vous essayez de faire entendre cette voix-là qu'on n'a pas le choix, finalement, que de partager, que de prendre les problèmes ensemble.
On n'a pas le choix, mais on ne le fait pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc tout est dit.
Yaka Faucon, c'est comme ça qu'on dit. Alors, autour de la question, pourquoi faut-il, justement, et pas seulement dire ça, partager sa science en vrai? Je propose tout de même un nouvel éclairage, vu de Bangui, en République centrafricaine, dont on a parlé à l'instant. C'est l'éclairage du professeur Emmanuel Nakouné. Il est actuellement le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui, précisément le même où Françoise Barré-Sinoussi avait mené ses recherches, qui ont abouti à la définition clinique OMS Bangui du syndrome d'immunodéficience acquise, donc le sida, proposé en 1985. Pour la surveillance épidémiologique dans les pays en voie de développement. Le professeur Emmanuel Nakouné est aussi responsable du laboratoire des arbovirus, fièvre hémorragique, virus émergent et zoonose, à l'Institut Pasteur de Bangui, où il a notamment beaucoup travaillé sur les virus Ebola dont on parlait, et Marburg. Écoutez son éclairage et sa question qu'il a pour vous depuis Bangui, où l'a joint notre reporter Charlie Dupiau.
Personnellement, je travaille sur les arbovirus, les virus des fièvres hémorragiques. Présentement, j'ai eu une grosse activité de recherche sur le monkeypox ou la variole du singe, son écologie, l'approche anthropologique pour comprendre comment les populations rurales perçoivent cette maladie. Mais aussi, nous avons démarré depuis 2021 un traitement des malades monkeypox avec l'étecovirimat, qui est un antiviral. Nous l'avons démarré avant la survenue de la grosse épidémie post-Covid de monkeypox l'année dernière.
Et en quoi, à vos yeux, le réseau des instituts Pasteur est important?
Tout d'abord, c'est un réseau qui est unique au monde, regroupant des laboratoires de recherche présents sur tout le continent. Il est important parce que les 33 instituts Pasteur ont tous la même mission, à savoir la recherche, l'appui à la santé publique et la formation encadrement. Ceci permet donc aux différents instituts Pasteur de mener des projets de recherche transversaux qui permettront de comprendre le comportement des mêmes pathogènes en fonction des zones géographiques.
Et avec quels instituts vous travaillez, vous collaborez ?
Nous avons mené beaucoup de travaux de recherche avec les équipes de l'Institut Pasteur de Paris, comme l'équipe du professeur Arnaud Fontanet, le professeur Antoine Gessin, Jean-Claude Manigura et Philippe Sansonotti. Mais nous travaillons aussi beaucoup avec l'Institut Pasteur de Shanghai sur toute la partie génomique et avec l'Institut Pasteur du Cambodge sur les virus respiratoires aviaires comme H5N1. Et en Afrique, nous avons plusieurs travaux de recherche collaboratifs avec l'Institut Pasteur de Madagascar, Dakar, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le Centre Pasteur du Cameroun et l'Institut Pasteur de Tunis.
Et est-ce que vous auriez une question pour notre invité, Philippe Kourilski?
Cher professeur Philippe Kourilski, vous avez dirigé l'Institut Pasteur de 2000 à 2005. Si vous devriez décrire en quelques mots les années Pasteur de 2005 à 2022, le rôle de l'Institut Pasteur face aux grands fléaux de ces dernières années comme la pandémie de Covid, l'épidémie de monkeypox, que diriez-vous?
Que diriez-vous, professeur Philippe Pourilski, au professeur Emmanuel Nakoumé, qui dirige l'Institut Pasteur de Bangui en République centrafricaine?
Ben voilà une grande et belle question. Moi, je dirais que l'Institut Pasteur, d'abord, je voudrais dire que je suis très fier à titre personnel d'avoir développé le réseau des instituts Pasteur. À l'époque, il était quand même plus ou moins assis sur les anciennes colonies, on peut le
Mais
dire.
oui,
Bon.
bien sûr.
Et donc, on parlait plutôt français qu'anglais dans le réseau international. Bon. Et donc, l'élargissement du réseau à d'autres zones du monde, qui a été fait par mes collaborateurs, etc., je pense que c'est un progrès très important. Alors, ceci étant, cette trajectoire a été poursuivie dans les directions que j'ai indiquées. Je crois que l'un des points critiques, c'est quand même que ce réseau des instituts Pasteur est une structure qui va du bas vers le haut. Enfin, en mauvais français, en
Oui,
anglais, on dit bottom-up.
bottom-up,
Bottom-up.
oui.
Ce n'est pas une structure qui est top-down, qui est descendante. Et le point qui est très important, c'est de bien voir que ces structures qui sont ancrées sur le terrain ont des capacités d'intervention qui ne sont pas du même ordre que les structures qui sont top-down. Et donc,
Par exemple, qu'est-ce que ça change?
si vous voulez, les informations qui viennent du terrain, elles sont qualifiées, elles ont une composante sociale,
Bien sûr.
elles sont d'une nature, c'est pas des statistiques, si vous voulez, hein. Donc
Mm.
les gens sont pas des nombres.
Et oui,
C'est donc,
n'oublions pas.
et quelque part, si vous voulez, ce genre de système ne fonctionne qu'à certaines conditions, et notamment s'il y a suffisamment de rapports humains et j'allais dire d'amitié ou de valeurs partagées entre les parties prenantes. C'est le cas des instituts Pasteur, et la force du réseau vient largement de ce sentiment d'appartenance qui est plus qu'un sentiment, c'est un phénomène de coopération perpétuelle dans lequel on se reconnaît dans l'autre et l'autre se reconnaît dans les autres.
On est pasteurien où qu'on soit, on en revient à cette question de l'altruisme et de l'équité. On en revient aussi à cette chaire Savoir contre pauvreté que vous avez initiée et qui se poursuit au Collège de France. Quand vous avez ensuite parti au Collège de France titulaire et professeur titulaire au Collège de France, il y a une question d'une de nos fidèles auditrices à Madagascar, Mamie Rakotomiaou, qui vous dit, mais finalement, Savoir contre pauvreté, ça concerne quel domaine? La médecine, les sciences médicales, les sciences humaines, les sciences économiques, les sciences dures. Votre réponse, Philippe Pourilski?
Bien, la réponse est que l'idée de cette chaire, c'était de mobiliser les savoirs scientifiques au service de la lutte contre la pauvreté. Et la beauté du Collège de France, c'est d'avoir créé depuis un certain temps des chaires qui sont tournantes, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elles sont occupées un an par un spécialiste, l'année suivante par un autre, etc. Ce qui a permis de faire tourner les spécialités pour essayer de répondre à cette
Mais
multiplicité de
voilà.
problèmes qui sont posées. Parce qu'effectivement, vous avez des problèmes qui touchent aux maladies infectieuses, bien entendu, mais vous avez des problèmes qui touchent à des différentes conceptions de la santé publique, d'autres à l'éducation, d'autres, etc., etc., à l'agriculture, bien sûr, le problème de la faim, enfin bon, c'est malheureusement
énorme
et quasiment inépuisable. Et donc, il y a eu 6 professeurs qui ont couvert 6 domaines différents.
Autour de la question, pourquoi faut-il absolument partager sa science et les moyens de la mettre en œuvre, au sud comme au nord, on continue de s'interroger avec vous, Philippe Kourilski, avec un petit clin d'œil à notre directeur scientifique à Bangui de l'Institut Pasteur, au son d'un collectif lyonnais intitulé Electromamba, très inspiré par sa rencontre avec une chanteuse centrafricaine. Ça donne la bande à Bangui et comme on dit à Abidjan, ça nous enjaille sur la RFI. Bongie, moke warangunja, mosi na bongie, moke warakozo, mosi na bongie, moke waramakongo. Mosi na bongie, moke warafeke, mosi na bongie, moke waradada. Du groupe électrique Mamba sur RFI.
Superbe.
Ça vous plaît, Philippe Kourilski ? Ça ne m'étonne pas. Parce que, en plus, à la fin de votre ouvrage, Mes années Pasteur, l'âge d'or de la biologie moderne, vous terminez au fond par une sorte d'appel à la jeunesse, aux jeunes générations en tout cas, aux artisans qui seront, dites-vous, les artisans de la science et de la démocratie. Est-ce que vous auriez peut-être, parce que vous défendez toujours ce partage, l'équitage, l'altruisme, est-ce que vous auriez peut-être un petit message, un petit appel à leur faire, enfin à ceux qui nous écoutent, notamment sur le continent africain ?
Oui, enfin, j'ai plus qu'un appel, j'en ai beaucoup. Mais...
Ah ben allez-y, l'antenne est pour vous, Philippe Kourilski.
Le premier appel, c'est que les jeunes fassent de la science. C'est important aujourd'hui, l'attitude scientifique est tout à fait essentielle. L'un des problèmes des démocraties aujourd'hui, c'est quand même de faire prévaloir les vérités sur les autres choses, disons. C'est tout à fait essentiel à tout point de vue. Et ce n'est pas du tout une idée ou l'idée de faire, dominer le monde par la technique. C'est absolument pas ça. C'est beaucoup plus l'idée du progrès de la connaissance et du partage de la connaissance. Donc ça, c'est un premier message que je tiens absolument à faire passer. On n'est peut-être pas très bien payé quand on est chercheur, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'on s'épanouit, si vous voulez, c'est merveilleux. La deuxième chose, c'est que surtout dans les pays en développement, il faut absolument que les chercheurs aient confiance en eux. Ils sont formidables, ils font des choses extraordinaires. Ils n'ont pas les moyens techniques, très souvent, dont nous disposons ici et là, mais ils font des choses absolument extraordinaires. Et donc, il est important qu'ils soient reconnus pour cela et qu'ils progressent, si vous voulez, avec la confiance qu'on leur doit. Peut-être le troisième message serait de dire que, là encore, il faut coopérer et là encore, il faut partager. La science a changé de dimension. Tout seul, on ne fait plus grand-chose. Parfois, il y a un génie ici ou là, d'accord, mais ce n'est pas comme ça que ça progresse. Et cette coopération doit être fondée sur des valeurs. Et là, je reviens. Oui. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de parler de valeurs quand on parle de science, mais il n'y a pas de science sans valeurs.
Non, rappelons-le, bien sûr.
Et ce partage des valeurs, c'est ce qui permet une certaine proximité, j'allais dire parfois une amitié, et une camaraderie en tout cas, une compréhension. Et je pense que c'est totalement essentiel pour l'avenir. On voit trop se développer les égoïsmes, les particularismes, là où la question centrale, encore une fois, c'est celle du partage et de l'équité.
Le partage et l'équité, merci infiniment pour ces messages, Philippe Porelski, pourvu que vous soyez entendu de tous et toutes. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Je vous le rappelle aussi, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale, votre ouvrage s'intitule « Mes années Pasteur, l'âge d'or de la biologie moderne ». Philippe Porelski vient de paraître aux éditions Odile Jacob. À bientôt peut-être, pour autre chose, je ne sais pas, vos années Collège de France ou autre chose. Merci en tout cas d'être venu en direct. On se quitte au son d'un groupe, alors c'est une instrumentale, mais c'est juste pour vous, intitulé The Biologist. Le morceau s'appelle « Mitochondriacs » et en plus, vous ne saurez pas qui joue dans ce groupe. Un de nos techniciens favoris, Laurent Salerno, allez, big dédicace à lui.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Ouais. Autour de la question, sous les applaudissements de Philippe Porelski, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h et bien sûr en podcast. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous mettre dans la peau et dans la tête d'un dauphin, carrément. Et vous verrez que c'est bien plus stupéfiant encore que tout ce que vous pourriez imaginer. Une vraie altérité, en somme, que nous fera partager la cétologue et delphinologue Fabienne Delfour, avec Thibaut Badiol à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité, le journal. Tout de suite.